26 novembre. Quelle est votre réaction? Lorsque vous observez ces pauvres femmes qui portent leurs lourdes charges au marché, ou que vous regardez les petits paysans jouer dans la boue en n'ayant guère d'autres jouets qu'elles, en voyant ces enfants qui n'auront pas l'éducation dont vous bénéficiez, qui n'ont pas de vraie maison, qui sont sales, mal vêtus, mal nourris, lorsque vous observez tout cela, quelle est votre réaction? Il est très important de découvrir vous-même quelle réaction vous avez. Je vais vous dire ce que fut la mienne. Ces enfants n'ont pas d'endroit convenable où dormir. Le père et la mère sont occupés toute la journée, sans un jour de vacances. Les enfants ignorent ce que c'est d'être aimés, choyés. Jamais leurs parents ne s'assoient auprès d'eux pour leur raconter des histoires qui disent la beauté de la terre et des cieux. Comment qualifier une société qui a créé une telle situation, où certains sont immensément riches et ont tout ce qu'ils peuvent désirer, alors qu'en même temps des garçons et des filles sont démunis de tout? Comment qualifier une telle société et comment est-elle née? Vous pouvez révolutionner tout le pays, casser les schémas de cette société, mais l'acte même par lequel on les brise en suscite de nouveaux, qui sont identiques, sous des dehors différents. Les commissaires du peuple, avec leurs résidences privées à la campagne, les privilèges, les uniformes et ainsi de suite, cela n'en finit jamais. C'est ce qui s'est produit après chaque révolution, française, russe et chinoise. Est-il possible de créer une société dans laquelle cesse d'exister toute cette corruption et toute cette misère? Cette société ne pourra voir le jour que lorsque vous et moi, en tant qu'individus, nous arracherons à toute emprise collective, lorsque nous nous libérerons de toute ambition et que nous saurons ce qu'aimer veut dire. Voilà quelle fut alors ma réaction, jaillie tout entière en un éclair.
Novembre. La compassion n'est pas le mot. La pensée ne peut, par aucun moyen qui soit, cultiver la compassion. Je n'emploie pas ce mot de compassion pour désigner le contraire de la violence, son antithèse. Mais à moins que nous n'ayons tous ce sens profond de la compassion, nous deviendrons de plus en plus brutaux et inhumains les uns envers les autres. Nous aurons un esprit aussi mécanique qu'un ordinateur, un esprit qui a simplement été entraîné à remplir certaines fonctions. Nous continuerons à chercher la sécurité, tant physique que psychologique, et nous passerons à côté de la profondeur extraordinaire de l'existence, de toute sa beauté et de tout son sens. La compassion n'est pas pour moi une chose qui peut s'acquérir. La compassion, ce n'est pas le mot « compassion » qui, lui, appartient au passé. Mais c'est quelque chose qui est d'ordre présent, qui agit. C'est le verbe, pas le mot en tant que substantif ou nom. Il y a une différence entre le verbe et le nom. Le verbe appartient toujours au présent, il agit, alors que le nom, lui, appartient toujours au passé et il est donc statique. On aura beau insuffler une vitalité, imprimer un mouvement au nom, au mot, ce ne sera jamais la même chose que le verbe qui est activement présent. La compassion n'est pas un sentiment. Elle n'a rien à voir avec cette sympathie ou cette empathie très approximative. La compassion ne peut se cultiver par la pensée, la discipline, le contrôle, ni le refoulement. Pas plus qu'en étant bon, poli, gentil et tout ce qui s'ensuit. La compassion naît lorsque la pensée, jusqu'à ses racines les plus profondes, a cessé d'exister.
Novembre. La compassion et le bien. La compassion, cette perception du bien, du juste, ce sens de ce que la vie a de sacré et dont nous avons parlé lors de notre dernière rencontre,
Ce sens peut-il s'éveiller de manière contrainte et forcée? Il va de soi que lorsqu'il y a contrainte sous quelque forme que ce soit, lorsqu'il y a propagande ou discours moralisateur, il n'y a pas de compassion. Pas plus qu'il n'y a de compassion lorsque le changement n'est motivé que par la nécessité flagrante de répondre à des défis technologiques afin que les êtres humains continuent d'être des êtres humains et ne deviennent pas des machines. Le changement doit donc impérativement être dénué de causalité. Tout changement qui survient en raison d'une causalité n'est pas de l'ordre de la compassion. Ce n'est qu'un produit marchand qui se vend ou s'achète. Voilà donc un premier problème. Un autre problème se pose. Si je change, comment la société va-t-elle en être affectée? Ou bien ne suis-je pas le moins du monde concerné par tout cela? Car dans l'immense majorité des cas, on ne s'intéresse pas à ce dont nous parlons ici. Et vous non plus, si vous n'écoutez que mu par la curiosité ou quelque autre impulsion et ne faites que passer. Les machines font des progrès si rapides que les êtres humains n'avancent le plus souvent que sous la contrainte et ne sont plus capables d'affronter la vie avec la richesse de l'amour, de la compassion, la plénitude de la pensée. Mais si je change, quel impact cela peut-il avoir sur la société, c'est-à-dire sur mes relations avec vous ? La société n'est pas quelque entité mythique extraordinaire. La société, ce sont nos rapports mutuels. Et si, parmi nous, deux ou trois individus changent, comment cela peut-il affecter le reste du monde ? À moins qu'il n'y ait un moyen d'affecter globalement l'esprit humain.
Novembre. Transmettre la compassion. Si je m'intéresse à la compassion, à l'amour, au sentiment réel du sacré, alors comment ce sentiment peut-il se transmettre? Suivez bien cela, je vous en prie. Si je le transmets par l'intermédiaire d'un micro, par les rouages de la propagande et parviens de la sorte à convaincre quelqu'un d'autre, son cœur restera pourtant toujours aussi vide. La flamme de l'idéologie agira, mais il ne fera que répéter, comme vous le faites tous, qu'il faut être bon, généreux, libre. Toutes ces absurdités, comme en débitent les politiciens, les socialistes et tous les autres. Ainsi, voyant que toute forme de contrainte, si subtile soit-elle, ne fait pas éclore cette beauté, cette floraison de justesse, de compassion, que peut faire l'individu ? Quelle relation peut-il y avoir entre celui qui a ce sens de la compassion et l'homme qui reste terré au sein d'une collectivité, d'une tradition? Comment pouvons-nous découvrir, et ce, non pas en théorie, mais réellement, la relation qui lie ces deux êtres-là? Ce qui cherche à se conformer ne peut fleurir dans le bien, le juste. Pour cela, la liberté est nécessaire. Et elle ne vient que lorsqu'on comprend, dans toute son ampleur, le problème de l'envie, de l'avidité, de l'ambition et la soif de pouvoir. C'est en se libérant de tout cela que peut fleurir cette chose extraordinaire qui s'appelle le caractère. Un homme qui a ce caractère-là est plein de compassion. Il sait ce qu'est aimer, contrairement à celui qui répète des flots de paroles moralisatrices. Ce n'est pas au sein de la société qu'a lieu cette floraison du bon et du juste, car la société en elle-même est toujours corrompue. Seul celui qui comprend toutes les structures, tous les mécanismes de la société, et s'en libère, seul celui-là a du caractère, et lui seul peut s'épanouir dans le bien.
Novembre. Il faut venir les mains vides. La compassion n'est pas difficile lorsque le cœur n'est pas rempli des sournoiseries de l'esprit. C'est l'esprit, avec ses exigences et ses peurs, ses attachements et ses refus, ses déterminations et ses besoins, qui détruit l'amour. Et comme il est difficile de rester simple par rapport à tout cela, vous n'avez nul besoin de philosophie ni de doctrine pour être bon et doux. Ceux qui, dans le pays, ont l'efficacité et le pouvoir, feront en sorte que tous soient nourris et vêtus, aient un logement et reçoivent des soins médicaux. Cela est inévitable, compte tenu de l'accroissement rapide de la production. C'est le rôle d'un gouvernement bien organisé et d'une société équilibrée. Mais aucune organisation ne donne la générosité du cœur et du geste. La générosité provient d'une source toute différente, une source au-delà de toute mesure. L'ambition et l'envie la détruisent aussi sûrement que le feu brûle. Il faut toucher cette source, mais on doit venir à elle les mains vides, sans prière et sans sacrifice. Aucun livre ne peut rien nous en apprendre, aucun gourou ne peut nous mener jusqu'à elle. On ne peut l'atteindre en cultivant la vertu, bien que la vertu soit nécessaire, ni grâce à ses capacités et à sa soumission. Lorsque l'esprit est serein, sans le moindre mouvement, elle est là. La sérénité n'a pas de motif. Elle ignore la soif du plus.
Er décembre. Il y a de la beauté à être seul. Je ne sais si vous avez déjà été seul. Vous réalisez soudain que vous n'êtes plus en relation avec personne, qu'il ne s'agit pas d'un constat intellectuel, mais de la constatation d'un fait réel. Et vous êtes complètement isolé. Toute forme de pensée, d'émotion est bloquée. Vous n'avez nulle part où aller, personne vers qui vous tourner. Les dieux, les anges ont tous fui par-delà des nuages, et comme les nuages, se sont évanouis. Vous avez un sentiment d'isolement total. Je n'emploierai pas le mot « solitude ». La solitude a une toute autre saveur. Il y a de la beauté à être seul. Être seul a un tout autre sens, et il faut être seul. Quand l'homme se libère de l'expression sociale de son envie, de son ambition, de son arrogance, de sa réussite, de son statut, quand il se libère de tout cela, c'est alors qu'il est complètement seul. Et c'est tout autre chose. Alors est une immense beauté. Alors est la sensation d'une immense énergie.
Décembre. La solitude n'est pas l'isolement. Bien que nous soyons tous des êtres humains, nous avons érigé entre nous et nos voisins des murailles qui ont pour nom le nationalisme, les distinctions de race, de caste et de classe, et qui sont autant de sources d'isolement, de solitude. Or, l'esprit qui est figé dans la solitude, dans cet état d'isolement, ne pourra jamais comprendre ce qu'est la religion. Certes, il peut croire, il peut avoir certaines théories, certains concepts ou formules. Il peut essayer de s'identifier avec ce qu'il nomme Dieu. Mais il me semble que la religion n'a absolument rien à voir avec les croyances, les prêtres, les églises, les livres prétendument sacrés. L'état de cet esprit religieux ne peut être compris que lorsque nous commençons à saisir ce qu'est la beauté. Et l'approche de cette compréhension de la beauté ne peut que passer par la solitude totale. Ce n'est que lorsque l'esprit est complètement seul et dans nul autre état qu'il peut savoir ce qu'est la beauté. La solitude n'est évidemment pas l'isolement et ce n'est pas non plus l'unicité. Être unique n'est rien d'autre, en un sens, que d'être exceptionnel, alors qu'être complètement seul demande une sensibilité, une intelligence, une compréhension hors du commun. Être complètement seul suppose que l'esprit soit libre de toute espèce d'influence et ne soit donc pas contaminé par la société. Et il faut que l'esprit soit seul pour pouvoir comprendre ce qu'est la religion.
qui consiste à trouver par ses propres moyens s'il existe une chose qui soit immortelle au-delà du temps.